Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
Les journalistes ne m'intéressent pas. You are
fake. Il est 9h40 sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous coupez ?
Non,
vous
pouvez.
Vous êtes en direct, allez-y.
Au fond, l'Europe est comme la démocratie. Quand elle remplit naturellement ses fonctions, on l'oublie, on s'y désintéresse, on s'endort dans le confort. Sursaut lorsqu'elle est menacée, c'est flagrant. Ces JT qui parlaient peu ou mal de l'Europe se sont tous réveillés. Brexit, résurgence des courants fascisants, populisme triomphant, invective à l'égard des alliés historiques. L'Europe qui se crispe, l'Europe qui se déchire, l'Europe qui menace d'un seul coup, elle a sa place. Le magazine C'est dans l'air, pilier de la chaîne France 5, rare lieu télévisuel à n'avoir jamais négligé les enjeux sociaux, économiques et politiques de l'Union européenne, propose ce soir 1h30 d'enquête sur la tentation populiste à l'orée des élections. Travail remarquable.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Caroline Roux.
Bonjour.
C'est dans l'air chaque soir sur France 5, c'est vous à la manœuvre. Et l'Europe, la tentation populiste, le film qui sera diffusé ce soir à 20h50, est écrit et réalisé par Marie Laurent. Vous en êtes la voix, vous en êtes également le fil rouge, puisque vous conduisez les interviews des personnalités politiques qui émaillent 7h30 d'enquête. Et je le dis, 7h30 d'enquête, elle est dense, elle est intelligente, elle est fine, elle est surtout extrêmement pédagogique. Elle est vraiment pour tout le monde. On y vient dans un instant. Xavier Delaporte, bonjour Xavier.
Bonjour Sonia. Bonjour.
La fenêtre numérique, la fenêtre du mardi, sur quoi s'ouvre-t-elle ce matin?
Sur des accidents d'avion, parce que parfois je suis assez étonné par le traitement médiatique des questions technologiques. À longueur d'articles, de reportages, de JT, on nous parle d'innovations fascinantes, d'intelligence artificielle en voie de nous surpasser, de remplacement des humains par les robots ou encore de transhumanisme. Mm-hmm. Et puis, sans transition, comme on disait à l'époque, on voit évoquer l'enquête en cours pour déterminer les causes de deux accidents d'avion qui ont eu lieu en l'espace de 5 mois, deux Boeing 737 MAX, l'un d'Ethiopian Airlines, l'autre de Lion Air, une compagnie indonésienne, qui sont écrasés peu après leur décollage, faisant au total 346 victimes. Comme si tout ça n'avait rien à voir. Or, on ferait bien de penser ensemble toutes ces questions, ça nous permettrait de mieux comprendre ce qui nous arrive. Que s'est-il passé avec ces deux avions, si l'on en croit les premières conclusions de l'enquête qui est en cours? Il s'agit vraisemblablement d'un problème logiciel. D'ailleurs, Boeing a annoncé garder au sol tous ses 737 MAX 8 et 9 afin d'effectuer une mise à jour logicielle et prendre le temps de les tester. Donc sans entrer dans les détails, on soupçonne le logiciel d'avoir mal interprété des données fournies par des capteurs et d'avoir automatiquement fait piquer du nez les avions sans que les pilotes ne parviennent à rétablir l'appareil. C'est sans doute beaucoup plus compliqué que ce résumé, mais la conclusion est brutale. Un problème logiciel a causé en 5 mois la mort de 346 personnes. Alors pourquoi ça devrait nous faire réfléchir? Parce que les programmes qui sont dans les avions font partie de ceux pour lesquels les contraintes de sécurité sont évidemment les plus élevées. Et pourtant, on ne peut jamais être certain qu'ils ne contiennent aucun bug. Les paramètres sont tellement nombreux qu'il est presque impossible d'être sûr qu'ils fonctionneront bien dans tous les cas, car ces cas sont trop nombreux pour être testés a priori. Alors ça illustre un aspect de l'informatique qu'on oublie souvent. Les programmes informatiques sont parmi les constructions humaines les plus complexes. Comme le disait un jour un éminent professeur d'informatique, il est beaucoup plus facile de construire un pont qu'un logiciel informatique. Mmh. Un pont, ce sont quelques équations. Un logiciel, ce sont des millions de lignes de code qui sont interdépendantes. Vivre avec les machines, c'est vivre avec tout ce qu'elles nous apportent. Dans l'aéronautique, les apports sont indéniables, en matière de sécurité notamment, mais c'est vivre aussi avec leur faillibilité. À mesure que l'intelligence artificielle, les robots et toutes ces innovations dont on nous parle avec des étoiles dans les yeux vont prendre une part plus grande dans nos vies, il faut s'attendre à éprouver encore plus la faillibilité de l'informatique. Alors c'est une faillibilité rare contre laquelle se mobilise l'intelligence humaine, mais qui, quand elle surgit, prend les atours d'une nouvelle fatalité. C'est ça aussi ce que racontent ces accidents d'avion. Ouais. Alors évidemment, je dis pas que nous autres journalistes, on devra faire flipper tout le monde dès qu'une défaillance se présente, ni même qu'on doit à chaque fois se transformer en philosophe. J'aimerais juste que les questions technologiques soient traitées pour ce qu'elles sont, avant tout des questions de société.
Voilà, la fascination et la peur, et le mot logiciel qui est revenu sans cesse dans l'actualité. À réécouter sur franceinter.fr. Europe, la tentation populiste. Mais qu'est-ce que j'ai ce matin? Moi aussi j'ai peur. Europe, la tentation populiste ce soir sur France 5 à 20h50. Je pioche dans cette enquête, je l'ai dit, dense et intelligente, qui commence par poser la naissance et la définition des populismes. Je pioche et je vais directement à cette précision qui rend les concepts et qui rend la perception du jeu politique plus complexe que jamais, Caroline Roux. Tous les leaders populistes se revendiquent en permanence de la démocratie. Ils ne sont pas anti-démocrates, comme Viktor Orban en Hongrie, qui forge ce concept de démocratie illibérale. Écoutez Jean-Dominique Giuliani, il est l'un des intervenants de l'enquête que vous diffusez ce soir. Il dirige la fondation Robert Schuman, think tank pro-européen.
Je vois bien ce que ça veut dire et je trouve ça profondément inadmissible. Car une démocratie, elle est forcément libérale sur le plan politique. La vraie démocratie, ce sont des contre-pouvoirs, une presse libre, une justice indépendante, des gens qui contestent, qui ont le droit de manifester, le respect des minorités, le respect de la parité. Ça, c'est la démocratie qui respecte la personne.
Et c'est extrêmement intéressant, car nous sommes toujours en démocratie, nous sommes toujours au sein de l'Union européenne, et c'est là que l'analyse est beaucoup plus complexe pour nous autres journalistes, pédagogues et passeurs, travail que vous faites chaque jour sur France 5, et particulièrement ce soir, Caroline Roux.
Bah c'est typiquement le genre de choses qu'on pourrait pas voir sur le prime de C'est dans l'air en quotidienne.
Ouais.
On avait besoin de ce format long, 90 minutes, ce format posé avec du reportage, pour poser ces notions-là, et détricoter ou retricoter, c'est selon cette histoire européenne qui est en train de s'écrire sous nos yeux, en allant au-devant de concepts aussi pointus que qu'est-ce que la démocratie libérale défendue par Viktor Orban et quelles sont les limites de ce concept-là. Donc c'est pour ça qu'on s'est déplacé en prime ce soir pour pour aller au-devant de ces notions avec une vraie approche pédagogique, et c'est gentil de le soulever parce que franchement ça a été un travail très compliqué en écriture, en réalisation, en reportage, pour ne pas être dans la caricature.
Alors, Viktor Orban, justement, déjà 8 consultations nationales.
Alors ça, c'est formidable.
Oui, le référendum comme outil de gouvernance autoritaire.
Avec des questions qui sont, je le dis dans le commentaire, un brin orienté.
Un brin.
C'est-à-dire qu'il utilise le référendum, la consultation, donc la démocratie d'une certaine manière, telle qu'il la défend lui, pour appuyer sa propre politique. Et là, en l'occurrence, c'est la politique familiale, puisqu'on montre dans le documentaire une famille hongroise qui répond à ce questionnaire, alors où on leur dit « Est-ce que vous êtes favorable à une famille hongroise équilibrée, épanouie ?» Je caricature, mais c'est presque ça, les questions.
Et on vous accorde un prêt de 100 000 euros pour la maison,
et
à
que
condition
vous êtes d'accord
que vous fassiez un troisième enfant, car on oppose, et c'est le sous-texte de ces consultations, la natalité hongroise au risque de l'immigration, à la menace de l'immigration.
Et la personne qui est interrogée, ce père de famille, de la famille Toth, il dit clairement, il faut qu'on fasse des enfants, sinon notre culture, ce que nous sommes, nous, Hongrois, risque d'être effacé par cet afflux de migrants qui arrivent avec une autre religion, avec une autre identité. Et tout ça est alimenté par Viktor Orban. On montre aussi dans le film, parce que vous voyez, il se présente avec, il siège aux côtés du PPE, au Parlement européen.
Qui est la droite traditionnelle.
Qui est la droite traditionnelle en Europe. Mais on montre la façon dont il exerce les responsabilités en Hongrie, cette campagne d'affichage contre George Soros ou contre Jean-Claude Juncker, où il les montre souriant, hilar, en montrant le visage, selon lui, de cette Europe, de ce monde ouvert, qui accueille les migrants et voilà certaines.
Et d'ailleurs, je le signale. Alors, c'est uniquement pour les abonnés de Canal+. Vraiment, l'instant même, vous conseille la fiction qui a été diffusée par Channel 4, qui s'appelle Brexit: The Uncivil War, et qui donc est là diffusée en France sur Canal+ avec Benedict Cumberbatch, et qui montre extrêmement bien toute la manipulation de l'opinion. La consultation nationale, le référendum, des outils démocratiques au service d'un pouvoir autoritaire. Vous avez été rencontré, vous avez mené cette interview, Marine Le Pen.
On peut très bien considérer que dans tel ou tel domaine, M. Orban fait des propositions qui sont un peu excessives, etc. Mais enfin, en attendant.
Vous le pensez-vous ?
Non, mais j'en sais rien, mais tout ça a été voté par le peuple hongrois. Alors, qui a raison, vous ou eux ? C'est toujours le même problème. Si vous voulez, en démocratie, c'est le problème fondamental. Qui a raison contre un peuple qui décide de se choisir des règles ? En fait, derrière tout ça, ce qu'on reproche à Orban, c'est de maîtriser ses frontières.
La liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, et d'ailleurs Marine Le Pen vous demande de ne plus utiliser à son égard le terme nationalisme, qui est péjoratif et signifie hostilité, mais le terme de nationaux. Chacun est maître chez lui. Liberté des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes.
Ça, c'est l'Europe que veut Marine Le Pen, c'est l'Europe que veut Viktor Orban. C'est l'idée qui consisterait à dire, on est libre chez nous à l'intérieur de nos propres frontières, mais on bénéficie quand même des subventions européennes. Mmh. Et ce que fait Viktor Orban, puisqu'on le rappelle dans le documentaire, les Hongrois sont les premiers bénéficiaires des subventions européennes par habitant. Et au fond, ce qu'on essaie de démontrer dans le film, c'est que cette alliance des nationalistes est impossible à mettre en place. Pour l'instant, enfin, d'après ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, c'est une fable. On ne peut pas mettre d'accord Matteo Salvini et Luigi Di Maio, cette drôle d'attelage italien qui demande de lâcher
Matteo
la bride.
Matteo Salvini, la Ligue oui, du pardon, Nord, excusez-moi. L'extrême droite.
Et le mouvement 5 étoiles voilà. de Luigi Di Maio, qui sont pour lâcher, en gros, sur les déficits budgétaires. Et par exemple, les Autrichiens, où le FPE est aussi aux responsabilités, qui sont sur une rigueur budgétaire. Donc en fait, il va y avoir dans ces nationalismes-là, et c'est ça, je vais vous dire, qui est inquiétant. Et c'est ce que rappelle un de nos experts dans le documentaire. C'est l'idée de dire ce sont des nationalismes avant tout, et les nationalismes, ce sont des affrontements. Et c'est Jean-Dominique Giuliani qui est assez pessimiste en disant l'avènement des nationalismes, c'est la guerre.
Le projet Steve Bannon. Alors, on va rappeler qui est Steve Bannon, artisan de la victoire de Donald Trump aux États-Unis, limogé de la Maison-Blanche. Il a dirigé Breitbart News, qui est le site d'information de l'alt-right américaine, main dans la main avec les suprématistes blancs. Il s'est installé en Italie, à Venise. L'élection américaine, italienne, justement, cette alliance entre les 5 étoiles et la Ligue du Nord, pour lui, c'est le modèle à suivre. France 5 l'a rencontré.
L'important pour gagner sera la participation. Donc, il va falloir aller chercher les voix, à la pelle et à la pioche, en faisant des sondages, en distillant des messages, en montant des espèces de war rooms pour préparer les messages à balancer dans les médias. Et quand je parle de guerre, je veux parler d'une guerre symbolique dans la tête des gens. Un des deux camps va gagner, l'autre va perdre.
L'autre camp, c'est Emmanuel Macron, il est nommé par Steve Bannon. Et d'ailleurs, Steve Bannon lui reconnaît d'avancer sans fauner. C'est-à-dire d'incarner l'adversaire.
Lui aussi reprend cette idée d'une bataille entre les nationalistes et les progressistes. Et c'est cette bataille que défend Steve Bannon. C'est quand même extraordinaire d'avoir pu le rencontrer. Marie Laurent a eu un entretien assez généreux de la part de Steve Bannon avec, voilà, c'est pas évident à obtenir, donc je tiens à le souligner. Et lui, il avance sans fauner de la même manière, c'est-à-dire qu'il dit clairement les choses. Il a posé ses valises dans un palais vénitien pour organiser cette alliance des nationalismes et cette révolution populiste. Et pour utiliser les moyens des réseaux sociaux avec ces war rooms pour donner un coup de main. Alors, ce qui est important de souligner, c'est qu'il n'est pas le bienvenu, Steve Bannon. C'est-à-dire qu'on a interrogé, on l'a pas forcément retenu dans le film, mais quand vous interrogez Marine Le Pen ou d'autres responsables européens identifiés comme
populistes, il n'est pas l'homme providentiel.
Et surtout, ils nous disent, on n'a pas besoin de lui.
C'est intéressant. Thomas Negaroff, historien, qui revient à plusieurs reprises dans l'enquête de ce soir.
Je crois qu'Emmanuel Macron a besoin des populistes. Et je crois que les populistes ont besoin d'Emmanuel Macron. C'est un jeu un peu complexe et trouble, mais je pense que les deux ont besoin d'un adversaire. Agiter la menace de ce que serait la perte de l'Europe, lâcher la proie pour l'ombre, ce discours-là, il peut fonctionner. Et c'est en cela qu'il a besoin de ces populistes, qu'il a besoin de l'ombre, quitte à en faire une ombre incroyablement dangereuse, quitte à en faire un monstre.
Alors, est-ce qu'on n'est pas là, au fond, on va parler de Macron, évidemment, mais dans le dilemme médiatique traditionnel? C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, tant que l'Europe fonctionne, l'Europe est molle, l'Europe est invisible, l'Europe est loin, l'Europe est naturelle, l'Europe n'intéresse pas, l'Europe n'implique pas. À partir du moment où elle se crispe et où elle menace, elle devient un enjeu.
C'est vrai, vous avez raison de le raconter comme ça. C'est vrai que jusqu'à présent, l'Europe, elle était ennuyeuse, elle était institutionnelle, elle est sans visage, elle est sans goût ni grâce, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'elle est en décriée par les peuples, même si dans le film Daniel Goldman dit les peuples, ça n'existe pas. Mais c'est aussi pour ça qu'elle est décriée.
Si peu incarnée journalistiquement,
mais vous savez, c'est quand on a peur de perdre quelque chose qu'à un moment donné on finit par le regarder avec des yeux enamourés. Donc là, effectivement, on se rend compte que le modèle de l'Europe qu'on a connu, vous et moi, apaisé, tranquille, peut-être un peu ennuyeux, est en train d'être un peu bousculé, et on se dit qu'est-ce qu'il y a après. En fait, c'est ça qui nous a interrogés dans le film. Et je voulais que je vous dise, je n'ai pas la réponse, après 90 minutes et des mois d'enquête. Parce que c'est ça qui est inquiétant dans ce qui est en train de se produire, c'est que l'alliance des nationalistes, en réalité, paraît impossible aujourd'hui à monter, c'est-à-dire un groupe nationaliste populiste qui parlerait d'une seule voix et qui ferait basculer l'Europe, paraît difficile à monter. Et quelle est l'alternative en termes d'organisation des pouvoirs? Vous parliez de démocratie libérale, c'est ça le modèle? Quel est le modèle?
Alors, donc, l'alternative, justement, au fond, est-ce que cette enquête ne va pas exactement dans le sens que veut Emmanuel Macron? C'est-à-dire présenter un Emmanuel Macron avec son combat, ses idéaux et son credo face à cette menace populiste, sans laisser de place à de possibles troisième voies, écologistes, droite traditionnelle, parti socialiste d'antan, que sais-je.
C'est effectivement une
est-ce
question
que vous ne risquez pas, vous, de tomber dans ce piège-là?
En fait, on essaie de le démonter, ce récit-là, puisque vous avez la gentillesse de passer cet extrait où on a des experts. J'interroge d'ailleurs la ministre Nathalie Loiseau sur le sujet en disant, dis donc, c'est pas un petit peu caricatural de nous la raconter, d'un côté les gentils progressistes et de l'autre les méchants nationalistes. Le fait est qu'on est allé plutôt s'interroger, nous, sur qu'est-ce qui est le ferment de cette dynamique dans les urnes en direction plutôt des populistes portés par des partis populistes. C'est ça qui nous a d'abord alertés. Après, c'est vrai qu'il y avait des voix, on aurait pu interroger des voix écolo, on aurait pu interroger des troisièmes voix portées par la droite européenne. Mais, si on est très honnête, le match, en tout cas dans les urnes aujourd'hui, si on ne parle ne serait-ce que des
mais
sondages en France, il se joue là-dessus.
Mais c'est le match que veut Steve Bannon et c'est le match que veut Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, et on montre en même temps dans ce film-là qu'ils se sont choisis eux-mêmes. On montre que Emmanuel Macron a besoin de ce match et que les populistes comme Steve Bannon a besoin de ce match aussi. On n'a pas fait un état des lieux politiques, c'est pas ça qu'on a fait. On a essayé de montrer la poussée populiste qui a commencé avec le Brexit, avec l'élection de Donald Trump et qui s'est poursuivie en Italie. Et à ce moment-là,
pointez,
on s'est dit...
Et vous pointez justement les échecs de l'Europe qui ont conduit à cela. Et d'ailleurs, c'est Nathalie Loiseau vous le dit, l'Europe, c'est nous. Ce sont nos échecs, cette montée du populisme. Vous montrez la France qui condamne l'Italie, qui refuse à ce moment-là l'accostage du navire Aquarius, alors qu'aux migrants, la France a fermé ses frontières. Vous montrez en 2015 la colonne de migrants qui déferle en Europe de l'Est, arrivant du Moyen-Orient, passant à pied par la Hongrie. Vous montrez Viktor Orban installant au nez et à la barbe de l'Union européenne un mur de barbelés électrifié. Et vous dites, l'Europe n'a pas pu empêcher cela. Ni le mur, ni les colonnes de migrants.
Et ce sont des Européens qui disent ça. Oui. C'est Nathalie Loiseau, c'est Jean-Dominique Giuliani qui reconnaissent les erreurs de l'Europe. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une forme d'honnêteté dans ce constat qui est de dire voilà, c'est pas hors sol, c'est pas d'un coup les méchants populistes qui seraient en train de marquer des points en Europe. Il y a aussi cette idée qu'il y a eu des échecs, qu'il y a eu des manquements, qu'il y a eu des hypocrisies, que l'Europe n'a pas été là à un moment donné quand il a fallu répondre après la crise économique, qu'il n'y a pas eu de réponse sociale, ça c'est Nathalie Loiseau qui le dit.
Et cette question de l'identité, parce que vous commencez par là, vous commencez en Italie, avec la réponse de Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur en Italie, qui dit ce qu'est être italien, c'est être descendant soi-même d'un Italien, c'est être catholique. C'est cette alliance aussi avec le catholicisme traditionnaliste en Italie. C'est ce déplacement d'un match politique sur un terrain identitaire et même plus que ça, ethno-civilisationnel.
Il y a différents terreaux ferments du populisme, s'en étant en Italie, qu'on retrouve aussi d'une certaine manière en Hongrie. Oui. Après, il y a des revendications plus sociales, des revendications liées à l'immigration et à la perte d'identité, là encore. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a... C'est les populismes.
Les populismes,
si on veut être très honnête, tout ne se vaut pas. Et la singularité aussi de ce mouvement-là, c'est qu'on... En faisant deux pas en arrière, on aurait tendance à se dire c'est une seule et même vague. En fait, non. Ce sont des pays qui ont leur propre histoire. On voit bien que Viktor Orban s'appuie vraiment sur l'histoire de son pays pour nourrir ce populisme-là, tout comme les Italiens. Et je m'arrête. Et je suis sur ma lancée, ça va pas être facile, Sonia de Villers.
Pour moi non plus, parce que le sujet est passionnant et qu'il est très bien traité. La tentation populiste en Europe, c'est ce soir sur France 5 à 20h50.